chanson toujours naïve et tendre. Des amants que l'amour un soir a rendu fous. Prêtez l'oreille et vous pourrez entendre vibrer dans bien des cœurs ce chant si doux. Reviens, Piccina Bella.
Dans quelques instants, sur Onde Femme Remue Ménage, reviendra On Remue Ménage sur Radio Zone 93.8. A tout à l'heure.
Suivre un désir qui passe n'est pas le vrai bonheur. Souvent l'amour s'efface, brisant les cœurs. Et pitié de mes larmes, souffrir n'est pas un jeu. Rien n'a pour moi de charme que dans le miroir bleu de tes yeux. Reviens, Piccina Bella, n'entends-tu pas ma voix? Ne me sois plus cruelle, reviens vers moi. Le triste amant qui chante au clair de lune exhale son beau rêve au hasard des chemins. Mais rien ne lui répond dans la nuit brune. Et l'écho tendrement répète en vain. Reviens, Piccina Bella, reviens vers notre amour. Dans l'ombre où je t'appelle, j'attends toujours. Suivre un désir qui passe n'est pas le vrai bonheur. Souvent l'amour s'efface, brisant les cœurs. Et pitié de mes larmes, souffrir n'est pas un jeu. Rien n'a pour moi de charme que dans le miroir bleu de tes yeux. Reviens, Piccina Bella, n'entends-tu pas ma voix? Ne me sois plus cruelle, reviens vers moi.
Remue ménage. Remue ménage, c'est Onde Femme sur Radio Zone 93.8 tous les mercredis en direct de 17h à 18h30. L'émission est rediffusée le jeudi à 10h et 15h. Remue ménage sur Radio Zone 93.8.
Thank you.
Bienvenue aujourd'hui sur Remue Ménage, Onde Femme, Radio Zone 93.8. En ce mercredi, eh bien, nous allons vous faire partager l'expérience d'Edith Sly que nous devions partager la semaine passée, mais pour des raisons indépendantes de notre volonté, la technique, et oui, toujours la technique, eh bien, nous n'avons pas pu passer cette interview d'Edith Sly qui a vécu une expérience très particulière puisque elle a partager la vie des habitants de Moscou, du moins certains de ses amis, chez qui elle a été accueillie avec son mari et son petit garçon Mathieu, qui avait à l'époque une année. Et elle nous fera partager cette expérience et sa découverte de l'Union soviétique, de la Russie, de Moscou en particulier. Mais en attendant, quelques moments de musique avec Véronique Sanson.
Pour l'amour d'un homme, elle avait quitté l'Ouest en automne. Elle était un peu folle, elle ne craignait ni Dieu, ni personne. Tout l'été, ils se sont vraiment préparés. Tout l'été, ils ont beaucoup voyagé. Elle était là debout, sous le regard flou de son homme. Et dans sa robe rose, elle avait mis des choses qui détonnent. Tout le monde dort, et pourquoi pas elle? Tout le monde dort, et pourquoi pas elle? Non, ah, à quoi te sert d'avoir? Elle a donné sa vie pour ta cause. La mort est sur le sable, te sens-tu mutilé dans ton âme? Tout le monde dort, et pourquoi pas toi? Tout le monde dort, et pourquoi pas toi?
soir va faire. Choisis-les bien parmi tes pères. Et c'est de toi qu'on se sert, c'est en ton nom qu'on se bat.
Le fameux Allah de Véronique Sanson, eh bien, aujourd'hui, on le repasse sans trop de risques, nous l'espérons. En tout cas, ce serait bien dommage qu'on continue à viser des gens pour quand ils ont à dire ce qu'ils ont à dire. La semaine passée, j'aurais voulu vous annoncer une conférence qui me paraissait fort intéressante. C'était celle présentée par Fernando Gabeira. Fernando Gabeira est un Brésilien qui allait parler dans le cadre des manifestations organisées autour du carnaval brésilien, puisque comme on n'est pas capable de faire un carnaval genevois, eh bien, il faut qu'on fasse un carnaval brésilien. J'adore le Brésil et j'ai vécu des moments superbes au carnaval, mais je trouve dommage qu'on doive exporter comme ça le carnaval, qu'on soit pas capable, enfin importer plutôt en ce qui nous concerne, et qu'on soit pas capable nous-mêmes de faire la fête. Mais bon, en l'occurrence, il y a des tas de gens qui travaillent pour amener la fête à Genève et on peut leur en être reconnaissant. Et entre autres, les gens du Centre Marignac ont décidé que cette année, autour de la fête, il fallait peut-être aussi donner quelques informations sur ce Brésil qui bouge et qui vient de vivre ses premières élections présidentielles directes depuis 25 ans, puisque c'est en 1964 qu'a eu lieu le coup d'État qui a installé la dictature militaire pendant à peu près 20 ans. 25 ans. Alors ce Fernando Gabeira était un des deux invités aux deux conférences organisées par le Centre Marignac. Qui est Fernando Gabeira? Pourquoi je vous en parlais sur Remue Ménage? Eh bien parce que Fernando Gabeira a commencé sa carrière en étant guérillero à Rio en 69, faisant la lutte armée, participant à des enlèvements qui devaient permettre la libération de prisonniers politiques aux mains de la dictature militaire brésilienne. Lui-même fut emprisonné, lui-même fut libéré par un enlèvement. Lui, c'était l'ambassadeur allemand, mais il y en a d'autres qui ont été libérés grâce à l'enlèvement de l'ambassadeur de Suisse. Et finalement, il a été exilé en Europe, un peu partout, vivant un assez long moment en Suède, en Allemagne. Et là, comme il le raconte, au contact des femmes du Nord, eh bien, il a pris conscience d'un certain nombre de choses, entre autres sur sa situation de macho latino-américain. Et conscient de ces choses-là, grâce à l'aide des femmes nordiques, eh bien, il est rentré au Brésil avec une vision complètement différente. Par exemple, voyant combien le mari, le frère, le père sont des supports de cette domination sur le peuple qui ressemble fort à la dictature, disant que c'est des outils d'installation de la dictature, ces gens-là. Et depuis qu'il est rentré de son exil en 79, eh bien, il n'a eu de cesse de participer, dans la mesure de son possible, à la lutte des femmes dénonçant la domination des machos sur les femmes dans un pays où l'on assassine les femmes et où l'on est protégé par la loi, puisque la loi a suggéré que les hommes étaient dans un système d'autodéfense de l'honneur lorsqu'ils assassinaient leurs femmes qui les avaient trompées. Alors, j'ai pensé que c'était intéressant d'aller lui poser quelques questions en tant que femme pour savoir pourquoi il participait à la lutte des femmes au Brésil. Bah, malheureusement, je n'ai pas pu vous annoncer cette conférence la semaine passée, mais je vous passerai une de ces prochaines émissions, un extrait d'une interview que j'ai fait de lui et où j'aborde un peu la question de sa participation à la lutte des femmes au Brésil. En attendant, eh bien, on se fait une petite chanson avec Marisa Monte, une autre Brésilienne, qui elle nous rappelle que manger, c'est un désir, c'est une volonté, c'est un besoin, mais que parfois on a besoin d'autre chose.
Thank you.
retourne à l'ouest. Cette terre du folklore russe, eh bien, je vous invite à partager un moment avec Edith Negley-Eusli, cette femme qui a passé 3 mois à Moscou cet automne passé. Elle est enseignante à Lausanne et avec son compagnon et son fils Mathieu, qui a fêté son premier anniversaire à Moscou dans le courant de l'automne, eh bien, elle a décidé d'aller vivre ces 3 mois avec les gens de Moscou, partager leur quotidien, parce qu'elle était déjà allée plusieurs fois en URSS, mais n'avait jamais pu rester si longtemps. Et pour elle, c'était important de rester plus longtemps pour vivre avec eux justement tous ces moments que l'on connaît vaguement, les queues, les difficultés, etc. Mais savoir qu'est-ce que cela voulait dire vraiment dans le quotidien, partager jour après jour et pas seulement pendant 5 jours d'une petite vie quand on rentre ensuite après dans son luxe occidental. Parce que, et c'est une chose qu'il semble que nous découvrons petit à petit, mais surtout que les Soviétiques eux-mêmes découvrent en même temps que nous, mais bien sûr beaucoup plus durement que nous, c'est que leur pays, tout le monde l'imagine, et eux les premiers, comme étant un des pays dans les premiers rangs du développement mondial, Et on découvre tout à coup, et ils découvrent tout à coup, qu'ils sont en fait quasiment dans un état de sous-développement d'un pays du tiers-monde, avec tout ce que cela signifie de vie misérable, de difficultés à surmonter jour après jour. Mais pour commencer mon entretien avec Edith Néglet, la première chose que je lui ai posée et qui m'intriguait au vu de l'actualité, c'était quand on revient de l'Est et qu'on connaît l'Ouest, est-ce qu'on a le même choc que ceux qui, venant de l'Est et ne connaissant pas l'Ouest, découvrent l'opulence de cet Ouest, même lorsqu'on le connaît?
Je pensais qu'en prenant l'avion, en arrivant à Cointrin ou à Zurich, je serais très, très choquée. Et puis non. Et puis non, simplement parce qu'on fait des séparations. C'est deux mondes tellement, tellement, tellement différents qu'on prend des critères pour l'un et des critères différents pour l'autre. Et j'étais presque un petit peu déçue et choquée moi-même de finalement arriver ici, chez moi, sans choc, sans surprise. Par contre, un immense problème de communication en rentrant, c'est-à-dire que chaque fois que je parlais de l'URSS, de ce que nous avions vécu, les gens avaient l'impression que j'étais une véritable héroïne. Et je ne l'ai pas vécu du tout comme ça là-bas. Seulement, ce que je peux raconter, c'est le concret, c'est la vie quotidienne, la vie dans le petit deux pièces, les courses, etc. Et c'est difficile d'exprimer l'amitié des gens, le petit quartier qu'on a bien aimé, une ambiance, une chaleur. Et moi, j'aime profondément ce pays, mais j'en venais à me demander moi-même qu'est-ce que j'avais bien pu aimer. Ce que j'ai aimé, c'est indicible, c'est pas des choses concrètes et c'est très difficile à transmettre.
Est-ce que les gens étaient intéressés à vous demander ici, vos amis, des choses qui consistaient à vérifier l'image qu'ils ont, eux, de l'URSS?
Bien sûr, surtout un immense espoir que poussent les gens de Gorbatchev, comment est Gorbatchev, et puis surtout, comme nous y étions pendant qu'il y avait tous ces changements dans les pays de l'Est, tout le monde nous disait, alors ça devait être vraiment passionnant dans la rue, etc. Et pas du tout. C'était passionnant pour d'autres raisons, mais dans la rue, les soviétiques avaient peu d'idées, ou en tout cas, peu d'intérêt pour ce qui se passait dans les pays de l'Est. Et je me suis rendu compte que nous étions, nous, Européens de l'Ouest, beaucoup plus proches des Européens de l'Est que les Soviétiques ne le sont. Ça, c'était une découverte, oui.
Donc finalement, en vous entendant, et ce que nous allons faire nous maintenant, les gens ont été hyper choqués de découvrir une réalité qu'ils ignoraient totalement. À propos de ce que vous leur racontiez, quand vous leur avez raconté, vous, ce qu'était, ce que vous avez vécu en Union soviétique et à Moscou en particulier, puisque vous avez vécu 3 mois à Moscou, ils ont comme ça, sont tombés du septième ciel en disant, c'est pas possible, c'est même pas comme ça que j'imaginais.
C'est vrai. Quand on raconte aux gens la réalité, le quotidien soviétique, ils sont bouleversés, ils sont déçus aussi, ils espéraient qu'avec cette perestroïka, aller mieux, ce qu'ont espéré les Russes aussi, que tout changerait en quelques années, aussi au niveau du quotidien, alors qu'on ne peut pas changer septotons d'inertie et de problèmes comme ça. Alors les gens étaient déçus, ça certainement, choqués, oui, quand on parle de pays du tiers-monde pour l'URSS, parce que je prétends qu'on peut parler de tiers-mondisation de l'URSS, ça choque beaucoup les gens ici. Et ils sont très déçus. Ils sont très déçus. On aimerait bien quand même que ça aille mieux. Ça nous déculpabiliserait aussi. C'est le même phénomène que ce qui s'est passé par rapport à la Roumanie. Hein. On aimerait bien envoyer des camions de chiffon et de l'aide. D'ailleurs, à ce propos, les images de Roumanie qu'on a vues, qui sont terribles, ressemblent beaucoup, beaucoup aux images qu'on voit de la rue à Moscou.
Alors, on va bien sûr parler de comment vous avez découvert toutes ces réalités-là, parce que bon, vous êtes allée en URSS déjà plusieurs fois avant ce séjour de 3 mois.
Oui, je suis allée 5 fois en URSS et on a pu mesurer chaque année les immenses changements, malgré tout, qui se passent, qui secouent ce pays, la révolution que ce pays vit.
Mais c'est pas la même chose d'y venir, j'imagine, à coup de 4-5 jours et puis tout à coup, effectivement, d'y passer un long moment, 3 mois, où vous avez partagé vraiment le quotidien des gens. D'abord parce que vous viviez chez des Soviétiques, donc très intimement, vous avez l'occasion de partager leur quotidien. Et puis parce que vous avez circulé, vécu dans la ville comme n'importe quel moscovite le vit.
Bien sûr, c'est très différent. Comme n'importe quel moscovite, pas vraiment, malgré tout... On a simplement déjà des devises, on a simplement des habits différents, des chaussures différentes, un pouce-pouce pour le bébé différent. Donc, même au resto 3 mois, en essayant de parler le russe, on ne va pas se fondre aux soviétiques, pas du tout. Mais c'est vrai que 3 mois, c'est très différent. En effet, on a abordé le quotidien, ce que nous n'avions pas besoin de faire les autres fois. Et puis, on a eu le temps de faire tout ce qu'on ne pouvait pas faire d'habitude. Parce qu'il faut bien se rendre compte que quand on va en Union soviétique, et là, les gens ne s'en rendent pas du tout compte, on se fait un petit programme, comme on fait des programmes de voyage, et ça ne joue jamais, parce que toujours, il faut reconfirmer les rendez-vous. Le musée est fermé le jour où il est censé être ouvert, de même pour le restaurant, etc. Donc, si on va 3 mois, on arrive à faire le tour de ce qu'on aimerait faire et découvrir dans le pays.
Vous disiez, on est forcément différent, le pouce-pouce, etc. Ça, peut-être on pourrait commencer par là. Vous débarquez dans Moscou, vous avez une voiture européenne et vous avez vos habits, vos habitudes. Ça, c'est une chose que les gens repèrent immédiatement. Jamais on vous a pris pour une moscovite ?
Jamais non. Quelques provinciaux m'ont pris pour une moscovite. Parce que bien sûr, par rapport à la province, Moscou, c'est vraiment la capitale, c'est le luxe. Et c'est vrai que les moscovites sont vêtus, par exemple, très différemment des provinciaux. Alors, quelques provinciaux m'ont pris pour une moscovite et m'ont posé des questions de type où se trouve le magasin tel et tel. Mais les moscovites n'ont jamais. La voiture, par exemple, impressionnait totalement les gens. Nous avions un bus Toyota. C'est déjà une voiture énorme là-bas. Alors, d'abord, on nous remarquait tout de suite et puis on nous demandait des services. Tous les gens qui vivaient autour de nous trouvaient un moyen ou un autre pour rentrer dans le bus, pour faire un transport. On a fait des transports invraisemblables. Le plus invraisemblable était celui d'une chienne devant accoucher à Moscou. Mais non, on était absolument tout de suite... repérer dans les queues également. Déjà parce qu'il y a certaines règles qu'on ne connaît pas et je pense qu'il faudrait habiter bien plus longtemps que 3 mois pour connaître toutes les règles de la queue. Un exemple, dans la queue, vous avez 3 personnes devant vous. Très bien, on est très contents, ça ne va pas durer. Pas du tout. Il y a une dizaine de personnes qui ont réservé leur place à l'avance ou qui vous demandent de réserver alors que on ne parle pas très bien le russe comme moi. C'est un problème. Et ça, c'est une règle qui marche. Personne ne prend la place de la personne absente qui arrive au dernier moment, etc. Il y a une série de règles comme ça, comme dans toutes les sociétés, qu'il faudrait, je pense, plusieurs années pour connaître.
Le coup du pouce-pouce, pourquoi c'était un problème, le pouce-pouce ? C'était vraiment un objet de distinction ? Donc, parce qu'il faut le répéter, vous étiez accompagné de votre petit garçon qui avait quoi, 15 mois à l'époque ?
Qui a fêté son premier anniversaire à Moscou. Simplement, le pouce-pouce était solide, avait des roues qui fonctionnaient bien, était pliable, avait des couleurs. Alors, simplement ça, c'était déjà frappant et choquant. Une fois, des provinciaux sont venus vers moi, me demandant dans quel magasin je l'avais acheté. J'ai dit, je l'ai acheté ailleurs, il vient de chez moi, je ne suis pas russe. Ah, ils ont ri, bien sûr, ont-ils répondu. Konnichiwa.
Et à un moment donné, c'est gênant pour vous, quand vous êtes dans la rue, de sentir les regards comme ça sur vous, qui marquent la différence forcément ?
Bien sûr, c'est gênant. C'est gênant surtout parce que le regard qui est porté sur nous est un regard de gens humiliés. C'est toujours, on se sent toujours mal à l'aise, il me semble, de sentir l'humiliation des autres. Il ne faut pas oublier que les soviétiques, en tout cas les russes, parlons plutôt de russes puisque j'étais à Moscou, sont des gens héritiers d'une culture extraordinaire qui est aussi un peu la nôtre. C'est des gens qui ont cru... certains du moins qu'ils étaient un pays phare, un pays modèle. Et ces gens-là, actuellement, se rendent compte que toutes ces images étaient fausses et ils nous voient avec notre arrogance, malgré tout, simplement d'avoir des jeans, d'avoir des bons souliers de cuir avec des bonnes semelles. Dans un pays comme l'Union soviétique, en hiver, c'est assez utile. Il y a quelque chose d'humiliant à ça. Ça, c'est très gênant. La fois où j'ai été peut-être le plus gênée, c'est une fois où, pour notre enfant, nous sommes allés dans un magasin spécial. Il y a des magasins, trois exactement, dont un magasin suisse-russe. C'est des joint ventures, des accords entre des commerces du RSS et des commerces d'ici, qui vendent tout. C'est-à-dire qu'on se dirait arriver à la Migros ou à la COP. Il y a votre Bircher Musli, des Poppers, Miracle, etc. Il y a tout. C'est Babylone. Et on arrive ici, dans ce pays où il n'y a rien. C'est payable uniquement en devise. À l'entrée, une jeune soviétique, mignonne, bien maquillée, est là uniquement pour filtrer les gens. Et quand une dame soviétique s'est avancée avec ses deux petits-enfants juste pour voir ce qu'il y avait dans le magasin, parce que les vitrines étaient cachées par des rideaux quand même, c'est gênant de trop montrer l'opulence. On lui a dit, mais ce n'est qu'en devise, c'est pas pour vous. Elle a répondu, ah c'est comme ça, ah c'est comme ça. Elle nous a regardés, elle a baissé la tête, on avait très très honte, on était très mal à l'aise, c'est clair. Et ça c'est un phénomène qu'on retrouve sans cesse dans la rue, sans cesse les gens nous demandent, où avez-vous acheté telle ou telle chose, etc. Et c'est toujours chez nous. Et d'ailleurs, ils demandent moins qu'avant. Avant, on disait, allez avec des jeans à Moscou, vous allez les revendre, faire plaisir aux gens. Les gens ont aussi une certaine fierté. Ils ne vous demandent plus ça. Ils regardent. Vous passez, puis derrière vous, la tête se tourne. Et c'est difficile à supporter, oui.
Ça, j'imagine, effectivement. Mais est-ce que vous avez ressenti ça, y compris auprès des gens qui étaient très proches de vous ? Donc, on me disait tout à l'heure, vous avez vécu ça, y compris auprès des gens qui étaient très proches de vous. Donc, on me disait tout à l'heure, vous avez vécu. Mais est-ce que vous avez ressenti ça, y compris auprès des gens qui étaient très proches de vous ? Donc, on me disait tout à l'heure. Vécu dans un appartement chez des amis. Alors, il faut d'abord peut-être décrire les conditions de vie quotidiennes des gens dans des appartements qui sont souvent extrêmement petits. Peut-être commençons par cela.
Alors, nous vivions dans un deux pièces. Les familles soviétiques vivent au général à 4-5 dans ce type de deux pièces. Une petite cuisine, une petite salle de bain, une petite chambre, une chambre, une pièce un peu plus grande. Pour nous, c'est petit. Je pense qu'à part ça, il y a simplement une génération, on vivait aussi comme ça ici. Mais c'est clair que les critères de place ici ne sont plus du tout les mêmes. Ça pose un certain nombre de problèmes quand les gens vivent avec leurs parents. Beaucoup de gens, comme le problème du logement est immense. Hein. En moyenne, actuellement, à Moscou, il faut entre 3 et 5 ans pour trouver un appartement. Dans la plupart des autres villes, c'est 10 ans. Alors, les gens restent avec leurs parents parce qu'ils n'ont pas la possibilité de déménager. Alors, essayons d'imaginer chez nous, j'adore mes parents, mais l'idée de vivre dans un deux pièces avec eux est pénible. Ça pose naturellement de gros problèmes, la proximité. Je ne sais plus ce qu'on m'avait demandé au départ.
Alors donc, vous avez des amis à Moscou, voilà, qui vous ont proposé de venir passer ces 3 mois chez eux dans leurs deux pièces, voilà, où ils étaient deux d'abord, et puis vous êtes venu les rejoindre avec votre compagnon et votre enfant. Donc vous êtes retrouvés à 5 comme la famille traditionnelle soviétique.
Voilà. Ce qui était une générosité extraordinaire de leur part d'ailleurs, parce que vivre à 5 avec un bébé en plus... Et je ne pense pas que beaucoup de gens le feraient ici. On n'a plus l'habitude de partager cet espace-là.
C'est cher de louer un appartement. Vous disiez c'est difficile d'en trouver un, mais en plus c'est cher.
Non, la difficulté est de trouver l'appartement. Mais les appartements, les loyers sont ridiculement bas. D'ailleurs, ça pose le problème de réfection des maisons, parce que simplement, il n'y a pas de quoi. Le loyer ne correspond pas à la valeur réelle de la maison. Alors, trouver un appartement, ça, par contre, c'est tout un circuit. Il faut avoir un réseau d'amis, il faut connaître le bouche à oreille. À Moscou, pendant que nous y étions, il y avait partout, contre chaque poteau, arrêt de bus, etc. Partout où c'était possible, contre chaque mur, des petites affiches où il était marqué, par exemple, 3 égale 2 plus 1. Et puis des numéros de téléphone à arracher. Et on s'est demandé d'abord ce que c'était. Il y en avait partout. Et c'est justement des recherches d'appartements. C'est quelqu'un qui a un appartement de 3 pièces, mais qui l'échangerait volontiers contre un appartement de 2 pièces plus 1 de 1 pièce. Et vous trouvez ça partout. Mais à Moscou, la situation s'améliore par rapport aux années 70-60, mais c'est encore invraisemblable, en tout cas selon nos critères occidentaux. Il y a encore 20% environ de gens qui vivent dans des appartements dits communautaires, c'est-à-dire à plusieurs familles qui ne se choisissent pas naturellement et qui partagent la cuisine, la salle de bain, etc. Et les conditions de vie sont très très difficiles dans ce type d'appartement.
Alors tout à coup, vous êtes retrouvée à vivre pendant 3 mois avec des gens qui sont des amis et qui, je crois, vous me l'avez dit un petit peu déjà, sont des gens d'un milieu assez élevé. C'est pas des ouvriers, c'est des intellectuels qui ont étudié. Et alors comment s'est passée cette cohabitation justement? Est-ce que il y a eu ce même problème de regard des gens de la rue sur vous occidentaux? Vous l'avez senti aussi parmi vos amis, avec vos amis? Il y a eu parfois tout à coup découverte d'un monde chez eux et chez vous, bien sûr, qui était antagonique, tellement différent, difficile à faire coexister?
Oui, mais beaucoup moins que ce que j'aurais pu penser avant. Bon, il faut dire que Sacha et Tania sont tous deux venus habiter chez nous. Et le choc de la Suisse, ils l'avaient déjà subi. Ils savent comment nous vivons. Le problème n'était pas tellement par rapport à nous, adultes, mais à l'enfant. L'enfant est élevé différemment en URSS, ça c'est certain. Et nous sommes plus libéraux par rapport à nos enfants. On trouve normal de jouer avec eux, de s'asseoir par terre, de chuter avec eux. Si l'enfant crie, on se dit qu'il s'exprime, etc. Alors que pour les soviétiques, ce n'est pas du tout encore le cas. Alors très souvent, mon ami Sacha m'a dit « Tu es en train de faire une fille », ce qui était très déshonorant pour mon fils Mathieu, hein, faire une fille. Les habits de couleur le choquaient beaucoup, par exemple. Mon fils avait des vêtements colorés, naturellement. Alors ça, c'est des vêtements pour filles. C'était très, très choquant, surtout pour mon ami Sacha, moins pour sa femme.
C'est quoi la couleur habituelle de l'enfant, garçon?
Alors les enfants, c'est un peu triste. Les vêtements d'enfants sont gris, sont verdâtres, mal coupés. Les jeunes femmes, actuellement, à Moscou, trouvent, par toutes sortes de moyens d'ailleurs, rarement dans les magasins, des habits plus colorés, elles se maquillent. Il y a plus de couleurs dans la rue, les gens sont plus jolis qu'il y a 5 ans, vraiment. Pour les enfants, ce n'est pas le cas, les enfants sont vraiment tristounets. Et rien de plus triste que d'entrer dans un magasin pour enfants soviétiques.
Est-ce qu'à partir justement, par exemple, d'une réflexion sur comment vous élevez votre petit Mathieu, il y a tout à coup eu des conversations qui ont porté sur des choses fondamentales, justement, par exemple, le rôle de la mère ou je ne sais pas, je peux imaginer que votre compagnon a parfois s'est occupé de temps à autre de bébé. Est-ce que c'est une chose qui se fait dans la famille soviétique, dans le couple soviétique?
Alors, dans le couple soviétique, j'ai vu quand même pas mal de papas jouer avec leurs enfants. Mais quant à faire les courses, quant à aller acheter les vêtements, quant à faire à manger, à se lever la nuit, à donner le biberon, non, pas du tout. Les hommes n'assistent par exemple jamais à un accouchement, c'est une histoire de femme, etc. Pourtant, le comportement, oui, de nos amis ont changé. Ils trouvaient notre fils très éveillé par rapport aux enfants du même âge. C'est clair que nos enfants sont plus stimulés. Par exemple, Mathieu marchait, alors que les petits soviétiques ont mailloté tous les premiers mois de leur vie, marchent beaucoup plus tard, ce qui est aussi plus pratique pour les parents qui vivent dans ces conditions-là. Alors là, oui, leur regard a changé. Et d'ailleurs, Sacha m'a demandé de lui envoyer des livres de psychologie aux Fautines quand nous sommes partis. Donc là, je pense qu'il y avait une réflexion qui se faisait. Et c'était en même temps bouleversant et triste, parce que je me disais, alors, jamais on va pouvoir être égaux à vous, parce que déjà avec les enfants, c'est mal parti. Il était triste plutôt de cette situation. D'ailleurs, le plus gros choc de cet ami quand il est venu en Suisse a été de voir l'école où je travaille. Il a vu la salle des ordinateurs, il a vu Lola avec les projecteurs, les classes simplement, avec dans chaque classe un magnétophone, dans chaque classe un rétroprojecteur, etc. Et il s'est effondré, il s'est mis à pleurer. J'étais très, très mal à l'aise. Il disait, fini, on rentre à la maison, j'en ai assez vu. Et quand on a pu en reparler après, on en a parlé justement au cours de ce séjour, il m'a dit, là, j'ai réalisé toute cette distance, toute la chance qu'on vous offre et que les nôtres n'ont pas. Et il me semble qu'il faudra tellement de générations pour en arriver là que j'étais désespérée. Ça, c'est un moment très émouvant.
Окрасился месяц багряным, где волны бушуют у скал. Поедем, красотка, кататься. Давно я тебя поджидал. Поедем, красотка, кататься. Давно я тебя поджидал. Кататься я с милым согласна, я волны морские люблю. Дай парусу полную волю, сама же я сяду к рулю. И правишь в открытое море, где с бурей не справится нам. Такую шальную погоду нельзя доверяться волнам. Нельзя, почему ж, дорогой мой, а в горькой минувшей судьбе ты помнишь звенщик коварный, как я доверялась тебе. Однажды сегодня тебя провела. Ты чувствуешь гибель презренный, как трус побледнел, задрожал. Ой, всю ночь волновалось о море, кипела морская волна, а утром качались на волнах лишь щепки того челнока, а утром качались на волнах лишь щепки того челнока.
Jane Bichevskaya, une Russe qui nous chante des chants populaires, Petite Mer.
Сударь.
Ménage, nous partageons l'expérience d'Edith Néglé qui vient de passer 3 mois à Moscou.
Господь с тобой.